Voilà. Bonsoir. Alors, ah oui, ça c'est comme dans les avions, au moment du décollage, il vaut mieux éteindre les appareils. Dans l'étape 5 que j'avais appelée « Comment Paul se situe face au mystère d'Israël ?»« Comment comprendre le chemin qui va de 1 Thessaloniciens 2 à Romains 9 ?» Donc nous avions pris un temps très important pour situer 1 Thessaloniciens 2, cette exclamation de colère de Paul, on l'avait réinscrite dans un topos prophétique, dans une exclamation prophétique, s'enracinant dans, par exemple, le livre des Chroniques, l'assassinat du prêtre Zacharie, fils de Baraki, entre l'autel et la porte, vous savez, qui avait dénoncé le peuple. Et donc Paul, un peu à la manière de Jésus, reprend ce topo de « les prophètes du Seigneur sont persécutés par le peuple du Seigneur ». Ce n'est pas quelque chose d'anormal. Et j'avais commencé à dire que dans Romains 9:11, nous nous trouvions face à un texte de nature différente, à un autre moment de la vie de Paul, à la fin de la vie de Paul, et un texte d'une ampleur théologique beaucoup plus grande, qualifié comme « mystère », c'est-à-dire « révélation ». Faite par Dieu dans la prière de quelque chose de très important. Et que on pouvait sans doute expliquer les problèmes que l'Église de Rome avait connus entre judéo et pagano-chrétiens par ce fameux édit de l'empereur Claude, en tout cas les expulsions que l'empereur Claude avait faites des agitateurs chrétiens, judéo-chrétiens, juifs chrétiens de la ville, et puis sans doute de quelques juifs non chrétiens pour faire bonne mesure, qui s'étaient retrouvés donc en Grèce, notamment à Corinthe, comme Priscille et Aquila, donc que Paul a rencontrés, et donc que par eux, Paul avait une connaissance réelle et de première main de la communauté de Rome, bien qu'il ne l'ait pas fondée. Et je reviendrai normalement dans le sixième point, sur cette question du pourquoi de la lettre aux Romains et du pourquoi de la mort de Paul, puisque les deux choses sont liées. Et que, au moment où, à la mort de l'empereur Claude en 54, et où arrive un jeune empereur que tout le monde adore, qui s'appelle Néron, mais les gens vont déchanter assez rapidement, enfin, quoique, il a quand même été très populaire longtemps, notamment auprès de la plèbe, c'était moins le cas au niveau du Sénat et des notables, eh bien, ces exilés, alors de 41 ou de 49, lors du colloque sur Saint-Paul, Marie-Françoise Basselès a plutôt défendu la datation 41 pour l'édit d'expulsion. Dans ce cas-là, Priscille et Aquila auraient été à Corinthe depuis 41. De toute façon, ils sont chrétiens depuis longtemps et c'est pas Paul qui a fait d'eux des chrétiens, comme beaucoup d'autres personnes que Paul salue. On reprendra ça à la fin de Romains, donc de ce fameux chapitre 16. Il dit même un moment, d'Andronicus et Junias, je crois, ce sont des apôtres éminents, verset 7, hein, 16, 7, saluez Andronicus et Junias. Alors, la BJ traduit ici mes parents. C'est vraiment très maladroit, parce que mes parents, en français, une fois de plus, je crois que je l'avais dit, mes parents, c'est des gens de ma famille. Bon, non, ça veut dire, mais... Mes sungenes, mes co-nationaux, des juifs quoi. Mes compatriotes, alors juifs on est toujours embêtés, on traduit co-religionnaire ou compatriote, les deux mots français sont un peu lourds. Et mes compagnons de captivité, ce sont des apôtres éminents qui m'ont précédé dans le Christ. Quand même, si on dit que Paul a été retourné par le Christ en 33-34, entre 30 et 33, si vous voulez, le créneau est quand même étroit. Donc c'est des gens qui ont été chrétiens vraiment de la première génération. Donc d'abord, quelques points sur quatre remarques introductives sur Romains 9 à 11. Bon, la première, j'y reviendrai longuement après. Donc, Paul écrit aux Romains en vue de défendre son apostolat et sa réputation. Il connaît la situation de l'Église de Rome, ou des Églises de Rome, bien qu'il ne les ait pas fondées, et veut soutenir son unité. Bon. Ça, c'est le cadre général de Romains. 2, Paul ne renie pas ce qu'il a écrit en 1 Thessaloniciens 2. Mais il est devenu plus conscient du risque que les pagano-chrétiens se mettent à faire les orgueilleux et à juger les fils d'Israël non-chrétiens. C'est-à-dire que, c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui, des choses que vous pouvez vous permettre de dire à l'intérieur d'une communauté, ou entre juifs par exemple, eh bien dit par d'autres, c'est plus exactement la même chose. Donc, le discours prophétique intra-juif contre le peuple d'Israël a une portée et une valeur à l'intérieur de la tradition du peuple d'Israël. Quand il est récupéré par des non-juifs pour l'utiliser contre le peuple d'Israël, ça devient autre chose. Donc Paul est devenu conscient, on va le voir dans le texte, du risque d'orgueil des païens convertis. Enfin, plus, toute sa vie, il a eu à lutter contre le contraire, c'est-à-dire contre l'arrogance des judéo-chrétiens. Et là, l'arrogance a changé de camp, l'humilité a changé de camp, les opprimés ont changé de camp. Il y a un changement de perspective. Voilà. Et c'est la première fois que Paul est confronté, sans doute, enfin semble-t-il, en tout cas dans ses lettres, à ce renversement. Troisièmement, dans Romains 9, 11, Paul livre le sommet de sa méditation sur le sort d'Israël et des nations. C'est le sommet littéraire et théologique de la lettre aux Romains, qui est comme son testament théologique. Je vais revenir sur cette expression, notamment de Günther Bornkamm, hein, Romans as last will and testament, hein, la lettre aux Romains comme dernière volonté et testament de Paul. Voilà. Donc Paul livre ici le sommet de sa théologie sur la question, en 3 chapitres longs. Donc, on ne peut pas dire que c'est un passage marginal, intercalaire, court, non, c'est tout à fait central. Mais en partie, le fait qu'on n'ait pas vu ça, c'est que, alors, depuis la Réforme, depuis Luther, on était obnubilé par Romains 5 à 8, c'est-à-dire les chapitres précédents, et d'autre part que le monde chrétien, la chrétienté, est rentrée entre Théodose en 380 et, j'allais dire, Zélisberg 1946, dans une attitude globale de rejet, condamnation, mépris d'Israël, quand même assez net. Alors vous avez quelques personnes qui sauvent l'honneur de temps en temps, mais enfin, les chapitres 9 à 11 de la lettre aux Romains n'ont pas du tout eu la portée théologique qu'ils auraient pu ou dû avoir pendant longtemps. Je prends aussi souvent cet exemple au niveau du dialogue avec les Juifs. Il faut quand même rappeler qu'entre 380 et 1950, quasiment, en tout cas, si vous lisez La France juive de Drumont, bien popularisée par la presse catholique vers 1880, on n'est pas vraiment dans une logique de dialogue. Tant du temps des empereurs chrétiens, donc à partir de Théodose, 380, christianisme, religion d'État, les empereurs byzantins, le Saint-Empire romain germanique, le Moyen-Âge, toutes les disputations sont inégalitaires. Les Juifs ne peuvent pas gagner. De toute façon, régulièrement, on les brûle, on les incendie, on les massacre. Donc, il y a des dialogues, il y a des discussions, il y a quelques érudits de temps en temps chrétiens qui apprennent l'hébreu, etc. Je ne veux pas nier ça. Mais enfin, on ne peut pas dire qu'on est sur des logiques de parité dans lesquelles tout le monde peut dire ce qu'il pense. Et c'est que depuis une époque récente, finalement, que les Juifs peuvent, malgré tout, oui, peuvent, en Europe, dire à peu près ce qu'ils pensent dans des dialogues avec des chrétiens. Ce qui est quand même un progrès, mais quelque chose de récent. Alors on ne sort pas de... Quand on vous a tapé sur la tête pendant 1600 ans, c'est un peu dur aussi de tout de suite de faire comme d'être un partenaire du dialogue, complètement tranquille, assumant vos positions. Et puis vous vous êtes refermé aussi beaucoup, donc voilà, tout ça, ça a eu des conséquences. Donc quatrième point, donc sommet littéraire, troisième point, quatrième point, le chapitre 15 de Romains, où il dit qu'il va porter la collecte à Jérusalem, Paul traduit en acte concret sa conviction spirituelle. C'est le devoir des païens convertis que d'aider les croyants de Jérusalem, et c'est le contrepoint pratique de ce qu'il va dire, si vous voulez, théologiquement, mystiquement, en Romains 9 à 11. Donc, dans les chapitres 9 à 11 de Romains, Paul se livre à une longue méditation, profondément appuyée sur l'Écriture. Quand on dit l'Écriture, c'est évidemment l'Ancien Testament. Donc, sur le sort et le destin d'Israël. Non pas simplement l'Israël qui a reconnu son Messie, et dont lui fait partie, avec d'autres, mais aussi Israël qui ne l'a pas reconnu. Comment cela a-t-il été possible? Dieu a-t-il été mis en échec par son propre peuple? Le scénario de la conversion des païens et des juifs se révèle être un mystère au sens que l'enchaînement des événements est contre-intuitif et surprenant, mais c'est la manière de Dieu. Et c'est donc un mystère, selon le langage de Daniel, un raz en araméen, c'est-à-dire un mystère, c'est-à-dire quelque chose qui n'aurait, que l'œil, l'esprit humain n'aurait pas pu concevoir, que l'œil n'aurait pu voir, etc., etc. Je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, de peur que vous ne vous preniez pour des sages. Romains 11, 25, l'endurcissement d'une partie d'Israël durera jusqu'à ce que soit entré l'ensemble des païens. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Où Paul semble reprendre ce concept de tout Israël, sachant que le petit mot « tout » est un mot très important dans toute la lettre aux Romains et dans la pensée de Paul en général. Tous les hommes... Les hommes qui commettent des péchés seront tous jugés, un début de la lettre. Ensuite, tous les hommes commettent des péchés, donc tous seront sous le jugement. Le petit déplacement du mot « tous » dans la lettre aux Romains est toujours très important à regarder. Donc, Romains 9, 11 se situe aux antipodes de tout « anti-judaïsme », entre guillemets, qui est d'ailleurs une expression anachronique. Il contient pourtant, là encore, des passages sévères, et va notamment reprendre la catégorie biblique de l'endurcissement du cœur. Ce n'est pas une invention paulinienne, c'est une expression de la Torah pour l'appliquer à Israël. Alors, on peut reprendre les choses tranquillement. Alors, j'avais déjà lu et commenté le premier paragraphe en empesant la radicalité et le ton extrêmement personnel et pathétique. Je dis la vérité dans le Christ, je ne mens pas, ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint, j'éprouve une grande tristesse, une douleur incessante en mon cœur. Bon, notez que c'est aussi le style rhétorique, puisque Paul écrit aux Philippiens qu'il est dans la joie et que la joie des Philippiens redouble sa joie. Bon, donc, il n'est pas triste tout le temps. Voilà, enfin, ça, c'est pas rien non plus. Peut-être que en sottofondo, derrière sa joie, il dit cette question-là, elle me travaille et elle m'attriste depuis longtemps. Je souhaiterais être moi-même anathème, séparé du Christ, pour mes frères, ceux de mon génos selon la chair. Hein. Vous voyez, pour mes frères, c'est très intéressant. Le mot frère, c'est le grand mot de la des chrétiens. Frère, sœur, mes frères, les sœurs, les frères. Bon, donc le registre familial et le registre de la fraternité. Or, frère continue à être un mot que Paul adresse à ses frères juifs. Ce qui est un des points qu'on doit toujours garder à l'esprit en parlant d'Israël. N'ayez pas peur de rappeler cela quand les gens vous en parlent. On vous dit « Non, mais alors c'est un peuple ou une religion ?» Justement, dans un peuple, entre Français, on ne s'appelle pas frères et sœurs. Enfin, à la Révolution, on a essayé, mais ça n'a pas duré. Bon, enfin, on est concitoyens. À la rigueur, on dit camarades. Bon, concitoyens. On est membre de la même civis. On n'est pas frères et sœurs, c'est pas pareil. Bon. Par contre, dans une religion, il y a un lien plus fort, plus intime, où le registre familial de la fraternité peut être invoqué. En Israël, c'est un peuple qui est aussi une famille. ou une famille qui est encore un peuple. Bon, le Rav Steinsaltz, Even Israël, Adin Steinsaltz, le traducteur du Talmud en anglais, préfère parler de famille pour parler d'Israël, comme terme central. Bon. Entre parenthèses aussi, quand Luc, dans les Actes, nous montre Paul s'adressant aux Juifs en disant « frère », que ce soit à la synagogue d'Antioche de Pisidie, ou d'ailleurs à la fin de la lettre des Actes, acte 28, 17. Trois jours après, Paul convoqua les notables juifs, il leur dit « frère, alors que je n'avais rien fait contre notre peuple, ni contre les coutumes de nos pères, j'ai été arrêté à Jérusalem, etc. » Il continue à leur dire « frère ». Ils sont toujours ses frères. Il n'y a pas de contradiction là entre Paul et Luc. Bon, eux qui sont israélites, vous savez qu'en gros, dans l'écriture, quand le mot « Israël » est employé, c'est le mot « de Dieu », c'est « Israël de Dieu ». Israël, c'est Jacob devenu Israël. C'est un terme très théologique. Judéen, ou chose comme ça, Judas, ou c'est quelque chose déjà de plus, comment dire, mondain, si je puis dire, moins théologique. Donc eux qui sont israélitaï, bon, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption filiale, la huyotessia. Il y a une grosse bagarre sur la traduction de ce mot grec en français. Vous savez, c'est comme la petite secte des catholiques qui disent que le Notre Père que nous prononçons est absolument hérétique parce qu'on dit ne nous soumets pas à la tentation et que c'est, on ne peut pas dire ça, que c'est un scandale total, etc. Bon, c'est un petit groupe qui écrit aux évêques depuis 40 ans. Bon, ils vont gagner puisqu'apparemment on va changer le Notre Père. Bon, très bien. Bon, ils ont quelques arguments. Hein. Bon, enfin, voilà. Il y a un autre groupe comme ça, une autre petite secte intéressante, qui dit « Mais huyotessia, il faut traduire par filiation tout court. » Tout court, enlever cette histoire d'adoption. Bon, qui insiste pesamment sur la différence avec les fils naturels. On va dire. On pourrait dire « Eux à qui appartiennent la filiation, la huyotessia. » La gloire, les alliances, avec un pluriel qui a beaucoup fait réfléchir, la législation, alors si on traduit en français législation, c'est qu'il n'y a pas le mot loi en grec. Hein. Nomothétos ou nomos, c'est pas nomos. La législation, le culte, les promesses, encore un pluriel, et les patriarches, et de qui le Christ est issu selon la chair, lequel est au-dessus de tout, le Christ, Dieu béni éternellement, amen. Alors là, il y a un sous-débat acharné. Est-ce que Dieu béni éternellement est une apposition de Christ, dans lequel cas Dieu est immédiatement attribué au Christ, ou il s'agit d'une, comment dire, d'une espèce d'interjection de prière finale, que Dieu soit béni éternellement, sous-entendu le Père. Le combat est ardent et noir. Je ne vais pas rentrer dans l'arène maintenant. Il y a de bons arguments et textuels et théologiques pour les deux interprétations. Non, certes, que la parole de Dieu ait failli. Alors, l'objection. Mais si ces fils d'Israël n'ont pas accueilli le Messie, qui devait venir pour eux, c'est que la parole de Dieu a échoué. Est-ce que la parole de Dieu a échoué? Et donc, un peu indirectement, est-ce que Dieu a échoué? Tous les descendants d'Israël ne sont pas Israël. Alors là, une première type d'argumentation, complètement biblique, va consister à montrer l'existence de catégories en Israël. Alors, il y a notamment la catégorie du reste, mais vous savez aussi, au temps de Élie, bon, il y a toujours une séparation qui s'effectue à l'intérieur du peuple entre ceux qui sont tournés vers Dieu et ceux qui n'écoutent pas Dieu. C'est pas nouveau. En gros, Paul dit, c'est pas un scoop le fait que la majorité du peuple n'écoute pas. C'est toujours été comme ça. Alors, de même que pour être descendants d'Abraham, tous ne sont pas ses enfants, mais c'est citation, c'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom, ce qui signifie ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, seuls comptent comme postérité les enfants de la promesse. Combien il a eu d'enfants, de fils, Abraham ? Deux. Alors deux, c'est la réponse standard, comme dirait Pascal, du malin, du premier malin, mais qui n'est pas encore complètement formé. Donc vous pensez à Ismaël et Isaac. Et vous en oubliez six. Non, les filles, ça compte pas. Je vous parle des garçons. Je vous parle des fils garçons. Il y en a huit dont parle l'Écriture. Alors, les six autres, on n'en parle vraiment pas beaucoup. Mais enfin, ils sont mentionnés, quand même, à un moment. Donc, Paul il dit, bon, voilà, en gros, il en a eu d'autres, mais il n'y en a qu'un qui compte. Voici en effet les termes de la promesse. Vers cette époque, je viendrai, Sarah aura un fils. Mieux encore. Alors, bon, pour Abraham, c'est évident, pas besoin d'épiloguer. Mieux encore, Rebecca avait conçu d'un seul homme, Isaac, notre père. Or, avant la naissance des enfants, quand ils n'avaient fait ni bien ni mal, pour que s'affirmât la liberté de l'élection divine qui dépend de celui qui appelle et non des œuvres, il lui fut dit « L'aîné servira le cadet, selon qu'il est écrit « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü ». Alors là, c'est un peu raide. Évidemment, c'est l'élection infra-utérine. Donc là, les deux jumeaux sont de la même mère. Apparemment égalité, il n'y en a pas un qui est né avant l'autre d'ailleurs, bon, enfin, si, mais pas beaucoup, quelques minutes. Alors tout de suite, style diatribique, style on apostrophe, qu'est-ce à dire ? Dieu serait-il injuste ? Ben quand même. Megenoito, qu'il n'en soit pas ainsi, car il dit à Moïse, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'ai pitié de qui j'ai pitié. Il n'est donc pas question de l'homme qui veut ou qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit au Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et pour qu'on célèbre mon nom par toute la terre. » Ainsi donc, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Donc, arrivé du thème de l'endurcissement. « Tu vas donc me dire, qu'a-t-il encore à blâmer ? Qui résiste en effet à sa volonté ?» Sous-entendu, si c'est lié à la détermination de Dieu, qu'en est-il de l'attitude de l'homme ? Ô homme, vraiment, qui es-tu pour disputer avec Dieu ? L'œuvre va-t-elle dire à celui qui l'a modelé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ? Le potier n'est-il pas maître de son argile pour fabriquer de la même pâte un vase de luxe ou un vase ordinaire ?» Là encore, l'image du potier, elle est dans la Bible, et notamment dans la fameuse allégorie du potier dans Jérémie. Vous savez, quand Jérémie regarde... C'est les paraboles en acte où Dieu dit « Va dans la rue des potiers et regarde les potiers. » Qu'est-ce qui se passe quand ils cassent un vase, qu'ils recommencent, etc., qu'ils refont le vase et tout. D'ailleurs, c'est pas qu'ils cassent, ils refont. Alors, c'est une image un peu de miséricorde en fait. Ça veut dire que le pot qui est mal barré au départ, on peut le récupérer quand même. Parce que le potier, c'est-à-dire, il écrase tout, il fait remonter le pot. Donc, c'est quand même la même pâte qu'on peut arriver à sauver une deuxième fois quelque part. Un peu comme l'image d'une renaissance, mais à partir de la même pâte. Eh bien, si Dieu, voulant manifester sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec beaucoup de patience des vases de colère devenus dignes de perdition, dans le dessein de manifester la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, envers nous qu'il a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les nations, vous avez trois petits points. Alors ça fait partie de ces dispositifs où Paul ne finit pas ses phrases. C'est pas qu'il manquait de papier, ou qu'il était distrait, ou qu'il n'était pas réveillé. C'est volontaire. C'est un effet de style pour que le lecteur achève le raisonnement. Alors, soit c'est un signe de colère, mais ici, on n'est pas forcément... la colère est mentionnée au début, mais... c'est la liberté de Dieu. Alors, comment ça peut finir ? Il peut reprendre la pâte. Il y a des vases de luxe, vases ordinaires, il y a des vases de colère et des vases de miséricorde, en fonction de sa miséricorde et de son choix. Bon, évidemment, les enfants qui ont toujours raison repèrent ici, d'abord, évidemment, la souveraine liberté de Dieu, et donc on dit, mais alors, où est la liberté de l'homme? Bon, on peut montrer dans Paul beaucoup de versets où Paul insiste sur notre réponse de foi et notre décision de foi. Sa question ici, c'est pour ça qu'il a l'endurcissement, c'est pour comprendre théologiquement une partie du refus d'Israël et donc d'expliquer que Dieu y a sa part dans cet aveuglement partiel. C'est pas pour nier la responsabilité non plus des Juifs qui n'accueillent pas le Messie. On n'est pas, si vous voulez, dans le débat moderne de la liberté. Il est dans une réflexion théologique sur le peuple de Dieu et l'adjonction au peuple de Dieu des nations, des autres. Comment ça va se faire? C'est bien ce qu'il dit en Osée. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et au lieu même où on leur avait dit « Vous n'êtes pas mon peuple », on les appellera « fils du Dieu vivant ». Bon, alors là, il y a évidemment une opération un peu osée, c'est le cas de le dire, puisque dans le prophète Osée, ça ne vise pas les païens. C'est plutôt ceux qui ont été jugés d'Israël, qui ont été pas bien aimés ou exilés, bon, on les appellera « fils du Dieu vivant ». Mais enfin, ça sert très bien le raisonnement de Paul, puisque ça consiste à dire quand même, c'est des gens que j'appellerai mon peuple, celui qui n'était pas mon peuple. Il y a le renversement dans lequel des gens qui n'étaient pas le peuple sont intégrés dans la bénédiction. Et Isaïe s'écrit en faveur d'Israël, « Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, le reste sera sauvé, car sans retard ni reprise, le Seigneur accomplira sa parole sur la terre. » Comme l'avait prédit Isaïe, si le Seigneur Tsevaot ne nous avait laissé un germe, nous serions devenus comme Sodome, assimilés à Gomorre. Alors là, c'est dans l'autre sens, effectivement, c'est les Israélites assimilés à des pécheurs païens. Donc soit on dit à des païens, vous n'étiez pas le peuple, mais vous devenez le peuple, et puis on dit au peuple, vous allez devenir comme les autres. C'est des versets qui croisent les identités et qui parlent de germes, de restes, de ceux qui n'étaient pas, qui sont, etc. Que dirons-nous donc? Que des païens qui ne poursuivaient pas de justice ont atteint une justice, la justice de la foi, tandis qu'Israël, qui poursuivait une loi de justice, n'a pas atteint la loi. Pourquoi? Parce qu'au lieu de recourir à la foi, ils comptaient sur les œuvres, sous-entendu les œuvres de la loi. Ils ont buté contre la pierre d'achoppement, comme il est écrit, « Voici que je pose en Sion une pierre d'achoppement, un rocher qui fait tomber, mais qui croit en lui ne sera pas confondu. » Bon, un texte que les chrétiens, et Paul a beaucoup utilisé. Le Christ comme signe de contradiction, comme pierre qui fait chuter, objet de scandale, scandalone, hein, la pierre qui fait chuter, c'est un scandalone. Scandale, c'est ça, c'est une pierre qui fait chuter, un scandale. Donc, qui fait tomber à gauche ou à droite, qui oblige à la décision, c'est un rocher qui fait tomber et qui en même temps sauve. Et la chose qui intéresse Paul, puisque c'était sa proposition de Romain, quiconque croit en lui ne sera pas confondu, ne sera pas perdu. Donc la thèse de l'Épître. Je ne rougis pas, 1.16, hein, je ne rougis pas d'évangile, il est force de Dieu pour le salut de quiconque croit, hein, le juif d'abord, puis le grec. Donc là, qui croit en lui ne sera pas confondu, ça nous rappelle la thèse centrale de la lettre aux Romains. Alors, dans les chapitres précédents, 6 à 8, je note son papier, bon, Paul avait répondu aux reproches qu'il aurait été contre la loi, longuement. Il répond maintenant, il va répondre aux reproches qu'il nierait l'élection et les privilèges d'Israël. Il a dit que non seulement les païens sont sous le péché, mais aussi Israël, hein, Romains 1 à 3, que le salut ne vient à tous, aux juifs comme aux païens, que par la foi, de 3 à 8. Et cependant, une grande partie d'Israël n'a pas cru donc à l'annonce de la foi en Jésus-Christ. Et pourtant, l'évangile a été qualifié de puissance de Dieu. Pourquoi l'évangile est-il apparemment impuissant, sans force, sur tant de fils d'Israël? Qu'est-ce que cela veut dire? D'où la question, est-ce que la parole de Dieu a failli? La non-croyance en Jésus d'une part importante ou majoritaire du peuple pose la question de la fidélité de Dieu à ses promesses. Il ne s'agit pas d'abord avec Paul de la question du salut des personnes au sens du jugement dernier, quand il va parler de salut, mais du dessein de Dieu dans l'histoire. Comme dans les Écritures, il s'agit pour Paul de ce qui se joue dans le monde et dans l'histoire. Dieu et sa parole vont-ils surmonter la résistance des hommes et comment? Sa promesse se révélera-t-elle véridique ou non? Donc les questions que nous nous sommes posées après en théologie, mais alors comment ils vont être sauvés, qui est sauvé, alors le juste israélite ou pas israélite, bon, c'est pas la question de Paul ici. Dieu qui rend juste les injustes et sauve les païens par grâce, sauvera-t-il le peuple qu'il a choisi? Et comment? Puisqu'il y a ce refus. Donc, la première réponse, j'ai dit, c'est d'observer qu'il y a une différence entre dans la descendance. Ensuite, il y a le concept d'endurcissement qui nous est effectivement difficile. Comment Dieu pourrait-il endurcir? Bon. Paul utilise des termes qui montrent que cet endurcissement ne supprime pas la liberté de l'homme. Je reviens là-dessus. Ce qui était déjà d'ailleurs le cas dans le texte biblique de Pharaon. Vous souvenez que le texte biblique alterne entre « Pharaon endurcit son cœur » et « Dieu endurcit le cœur de Pharaon ». Il y a les deux expressions. Sous-entendu, si Pharaon ne voulait pas endurcir son cœur, Dieu n'y arriverait pas. Oui, on se heurte toujours à ce mystère de la liberté et de la grâce, de la résistance de l'homme et de Dieu, mais enfin, Pharaon y est pour quelque chose. Donc il parle de désobéissance, de rébellion, en 10-21, un peu, de non-croyance, d'entêtement. Le concept d'endurcissement est fonctionnel. Dieu n'endurcit pas n'importe comment, mais pour un but bien précis qui ne peut être que le salut. Ce qui était déjà le cas de Pharaon. Si Dieu endurcit ou laisse plutôt, alors on préférerait, disons, si Dieu laisse Pharaon s'endurcir, c'est en vue du salut des fils d'Israël, et à terme, de l'Égypte. Alors, un horizon qui est très lointain pour l'Égypte, mais quand même à terme. De même ici, l'endurcissement d'une partie d'Israël, c'est un pour que soient sauvées les nations qui vont, les païens qui vont rentrer dans la foi, et à terme aussi, alors peut-être un horizon moins lointain, les fils d'Israël. Dieu a endurci pour que le salut parvienne aux nations, pour que les apôtres proclament l'évangile aux païens. Alors je continue. Le chapitre 10. Frères, certes, l'élan de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Bon, il revient au thème du début du 9. Je prie pour qu'ils soient sauvés. Notez qu'il dit bien... Il ne dit pas seulement ma prière, l'élan de mon cœur, il y a une dimension, une fois de plus, pathétique, personnelle, affective. Car je leur rends témoignage. Ils ont du zèle pour Dieu, mais c'est un zèle mal éclairé. Méconnaissant la justice de Dieu et cherchant à établir la leur propre, ils ont refusé de se soumettre à la justice de Dieu. Alors ces deux versets, 2 et 3, nous rappellent qui? Quand Paul décrit les Juifs ainsi. Je leur rends témoignage, ils ont du zèle pour Dieu, mais c'est un zèle mal éclairé. lui-même. Ça nous rappelle Paul lui-même, puisque dans Galates, au début de Galates, il se décrit comme ayant eu du zèle, qu'il était zélé pour Dieu. Ma conduite dans le judaïsme, de mes progrès où je surpassais bien des compatriotes de mon âge en partisans acharnés des traditions de mes pères. Et par ailleurs, le verset 3 est aussi très important parce qu'il établit un lien avec un autre verset clé de Paul qui est Philippiens 3, 9. Alors je vous rappelle ce passage. Quant au zèle, verset 6, persécuteur de l'Église. Donc, Galates parle de « je surpassais tout le monde ». Philippiens, il dit « j'étais zélé ». Donc, quant à la justice que peut donner la loi, homme irréprochable. Donc, on comprend, il cherche à être bon, la justice. Tous ces avantages, je les ai considérés comme des avantages. À cause de lui, Jésus, j'ai accepté de tout perdre, fin du 8, 9, afin d'être trouvé en lui, n'ayant pas comme justice à moi celle qui vient de la loi, mais celle de la foi au Christ qui vient de Dieu et s'appuie sur la foi. Or là, il parle de lui, de son expérience. Donc là, dans Romains, quelques années après Galates, il emploie les mêmes mots qu'il employait pour lui, pour parler des autres juifs. Zélé. Car, alors là il y a un verset qui a aussi provoqué des fleuves d'encre, le télos de la loi, c'est le Christ pour la justification de quiconque croit. Alors le télos de la loi peut être traduit de deux manières, soit comme dans le mot téléologique, le but, l'objectif, la fin, mais voilà, le mot fin en français, précisément, c'est pour ça qu'ils le traduisent comme ça, ben, a les deux sens. La fin de la loi, ben, c'est la fin de la loi, ben, la loi elle est finie. Ben, c'est la fin de votre carte, monsieur, elle est périmée, c'est la fin, c'est marqué fin, c'est périmé. Fin le 1er mars 2014. Ben, j'essaye de passer, on va me dire non, c'est fini monsieur. Donc, c'est la fin de votre carte. Ou c'est l'objectif, c'est ce vers quoi la loi tendait. Alors évidemment, les deux, il peut y avoir une nuance des deux, Paul peut vouloir dire les deux. Moïse écrit en effet de la justice qui vient de la loi, qu'en l'accomplissant, l'homme vivra par elle. Tandis que la justice née de la foi, parle ainsi, ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel. Alors là, Paul utilise une technique juive, une technique herméneutique juive du temps, où on va réinterpréter un passage de l'Écriture pour l'adapter au présent théologique. Ici, c'est un passage du Deutéronome. Chaque verset est immédiatement interprété. On a trouvé notamment à Qumran le fameux pécheur d'Abakouk, où chaque verset d'Abakouk est comme ça réinterprété pour l'aujourd'hui. Qui montera au ciel? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui montera au ciel nous chercher la loi? Entend pour en faire descendre le Christ. Ou bien qui descendra dans l'abîme? Entend pour faire remonter le Christ de chez les morts. Que dit-elle donc? La parole est tout près de toi, sur tes lèvres et dans ton cœur. Entends la parole de la foi que nous proclamons. En effet, si tes lèvres confessent que Jésus est Seigneur, si ton cœur croit que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car la foi du cœur obtient la justice et la confession des lèvres le salut. L'Écriture ne dit-elle pas « Quiconque croit en lui ne sera pas confondu ». Toujours cette même citation d'Isaïe, où ce qui l'intéresse, Paul, c'est le « quiconque croit en lui ». On ne dit pas tout fils d'Israël, on dit non, quiconque, on élargit. Aussi bien, n'y a-t-il pas de distinction entre le juif et le grec? Tous sont le même Seigneur, riche en miséricorde envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Autre verset qui a la même portée. Aussi bien n'y a-t-il pas de distinction, rappelle un passage du début de la lettre. En gros, 3:22 et suivant. Justice de Dieu par la foi en Christ à l'adresse de tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence, 3:22, tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu et sont justifiés par la faveur de sa grâce en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ. Et le verset 29 surenchérit, Dieu est-il le Dieu des Juifs seulement et non point des nations? Ça, c'est la grande question à Israël. Certes, également des nations, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu qui justifiera les circoncis, donc les Juifs en vertu de la foi, comme les païens, les incirconcis, par le moyen de cette même foi. Donc, il y a plein de, comme ça, de ponts, d'échos que Paul dresse entre les différentes parties de sa lettre. Mais comment l'invoquer? Alors là, c'est un passage très célèbre. Synode sur l'évangélisation, comment l'invoquer sans d'abord croire en lui, et comment croire sans d'abord l'entendre, et comment entendre sans quelqu'un qui proclame, et comment proclamer sans être d'abord envoyé. Là encore, Paul parle de lui. Il proclame parce qu'il a été envoyé, il est apôtre. Et que, en l'entendant, des gens croient. J'avais insisté sur ce fait que c'est son charisme à lui, Paul. Il dit, moi j'ai reçu du Christ, de Dieu en Christ, cet appel à annoncer l'évangile, mon évangile, l'évangile du salut de Dieu pour quiconque croit, et que ce soit opératoire, que ce soit efficace. Comment proclamer sans être d'abord envoyé, selon le mot de l'Écriture, toujours Isaïe, qu'ils sont beaux les pieds des messagers de bonnes nouvelles. Dans l'Ancien Testament, vous avez deux pôles, deux foyers, et deux foyers seulement, qui ont le registre de l'Évangile, de Euangelizomenos, du porteur de bonnes nouvelles. L'un de ces foyers, c'est dans les livres de Samuel, au moment de la révolte d'Absalom. Et l'autre foyer, c'est ce passage d'Isaïe, du troisième Isaïe, sur la bonne nouvelle, les porteurs de bonnes nouvelles qui viennent à Sion. Et je défends avec Philippe Lefebvre l'idée, le professeur de Fribourg, que ces deux foyers radioactifs qui clignotent dans l'Écriture nous disent des choses de ce qu'est l'Évangile et de ce qu'est un évangélisateur. Parce que, d'abord, il y a une course. D'abord, annoncer l'Évangile, c'est courir. Ça ne se fait pas en marchant, dans les deux cas. Ça annonce la mort d'un fils, correct, qui est une victoire, bizarre. C'est pour ça que David pleure. Ben oui, c'est une victoire, sauf que son fils est mort. Bon. Ça a à voir donc avec la mort d'un fils. Ça a à voir avec une bonne nouvelle qu'il faut courir annoncer. Et donc il y a des messagers. Alors l'idée intéressante, c'est que le messager n'est que le porteur du message. Par ailleurs, dans le premier passage, il y a deux hommes qui courent. Un juif et un couchite, un noir, un éthiopien. Les éthiopiens courent très vite. Donc, ça n'a pas changé. Ça. Donc, dans l'armée de David, il y a des hittites et il y a des couchites. Comme dans toutes les gardes des royaumes de l'époque, vous avez des couchites, des éthiopiens. Et donc, quand Joab, bon, personnage shakespearien, fabuleux, Joab, bon, homme de sang, Shimei. Mais bon, quand Joab remporte la victoire, qu'il a lancé les javelots dans le flanc d'Absalom, le pendant à l'arbre, dans les arbres, puisque ses cheveux se sont pris dans les arbres, cette scène incroyable, bon, donc la révolte est écrasée, c'est la victoire. Il faut aller annoncer la victoire au vieux David qui se morfond à la porte. Alors Ahimaatz, fils de Sadoc, le plus rapide des guerriers d'Israël, dit « Je vais courir ». Joab dit « Non, non, pas toi. le Cushite. Achimatz insiste, non, pas toi, le Cushite. Et le Cushite part. Pourquoi Joab fait ça d'ailleurs? Voilà. Parce que c'est déjà arrivé pour Saül. Il veut sauver la vie d'Arimatz. Bon, en Éthiopien, bon, pas grave. Je suis un peu sévère pour l'Éthiopien, mais c'est peut-être ça le sens. Mais Achimatz insiste une troisième fois. Il se met à courir. Et vous avez cette scène, vous connaissez ce passage, hein, ça va, je rappelle les souvenirs, mais le guerrier sur le toit, je vois courir un homme. Ah, qui c'est? S'il est seul, c'est une bonne nouvelle, se dit David. Et puis j'en vois un second. Et je reconnais sa façon de courir. C'est celle d'Arimatz, fils de Sadoc. Et en fait, Arimatz va doubler le Cushite. Le Cushite, il est peut-être malin. Il laisse Arimatz passer devant. Parce qu'il sait ce que vous dites. Mais bref, David est tellement dans la douleur qu'il fait tuer personne. Il dit « Mets-toi à l'écart » et il attend que le Cushite arrive. Et le Cushite dit « Monseigneur le roi, aujourd'hui Dieu t'a donné une grande victoire, etc. Bon. » Et David pleure « Absalom, mon fils Absalom, Absalom, mon fils, que ne suis-je mort à ta place ?» Ça, c'est le premier texte de l'Écriture saturé d'évangile. C'est quand même intéressant. Bonne nouvelle, évangéliser, annoncer, courir, etc. Notez que moi, deux hommes qui courent, il y en a un qui court plus vite, ça me rappelle autre chose. Hein Jean 20, hein, d'accord. Donc pareil, il s'agit d'annoncer voilà, une mort, une victoire. Et puis l'autre, les autres passages sont eux, dans ces chapitres d'Isaïe où voilà, c'est les messagers de bonnes nouvelles qui annoncent le retour d'exil, hein, la sortie du peuple de l'exil. Bon. Voilà, donc c'est ces deux passages qui sont quand même intéressants. Qu'ils sont beaux les pieds des messagers de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Isaïe l'a dit, Seigneur, qui a cru à ce que nous entendions dire? Ainsi, la foi naît de ce que l'on entend dire, et ce que l'on entend dire vient de la parole du Christ. Or, je demande, n'aurait-il pas entendu? Et pourtant, leur voix a retenti par toute la terre, leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Bon, l'argument est un peu... Le psaume est utilisé un peu rapidement. Enfin, au moment où Paul parle, sans doute qu'il y a eu des missionnaires chrétiens dans tous les grands pays et dans toutes les grandes synagogues de l'Est. Vous savez, c'est cette fameuse phrase qui fait beaucoup sourire quand Jacques, dans les Actes, dit, en parlant des païens, « Bon, on va leur imposer quelques règles. » Bon, de toute façon, depuis la nuit des temps, Moïse a dans chaque ville des synagogues où l'on annonce la loi. Alors, le païen peut dire « Attendez, la belle affaire, moi je... » J'habite au fin fond de la Cappadoce, la synagogue est à 100 km, et moi je ne suis jamais rentré dans une synagogue. Ah non, mais nul n'est censé ignorer la loi, parce qu'il y a des synagogues partout. C'est un peu le raisonnement de Jacques. Bon, alors là, Paul, il dit, de toute façon, le message est allé jusqu'aux extrémités du monde. Ce n'est pas complètement vrai, puisque d'ailleurs, il veut aller en Espagne, vérifier que cette extrémité du monde-là a bien entendu le message. Mais ce n'est pas le point auquel il s'intéresse ici. Mais je demande, Israël n'aurait-il pas compris? Donc ils ont entendu. Ils n'ont pas compris. Eh bien, déjà, Moïse a dit, « Je vous rendrai jaloux de ce qui n'est pas une nation. Contre une nation sans intelligence, j'exciterai votre dépit. » Et Isaïe ose ajouter, « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne m'interrogeaient pas. » Là aussi, on peut penser que c'est un peu Paul lui-même. Eh bien, moi, j'ai rien demandé. J'ai été trouvé par Jésus sans l'avoir cherché. Tandis qu'il dit à l'adresse d'Israël, tout le jour, j'ai tendu les mains vers un peuple désobéissant et rebelle. Donc là, c'est l'argument, c'est que, en gros, je sens que je suis en train de vous saouler, mais là, dans la lettre aux Romains, Paul ne fait que reprendre des arguments scripturaires. Alors, on peut trouver que c'est arabiscoté, l'endurcissement, etc. Mais tous ces raisonnements sont complètement coulés dans l'Écriture. Là, c'est la jalousie. C'est aussi un concept biblique qu'il reprend. Deutéronome 32, « Ils m'ont rendu jaloux avec un néant de Dieu, ils m'ont irrité par leurs êtres des riens. Eh bien, moi, je les rendrai jaloux avec un néant de peuple, je les irriterai au moyen d'une nation stupide. » Bon. Donc Paul dit, je sais bien que les païens, là, ces esclaves romains, tout ça, c'est du néant, c'est du rien. Bah oui, mais Dieu, il fait régulièrement le coup. Il prend des gens qui sont rien, et il prend ça comme témoin. Donc ce thème de la jalousie, voilà déjà zèle pour Dieu connu des Écritures. On peut penser à Élie, je suis rempli d'un zèle jaloux pour le Seigneur parce que les Israélites ont abandonné ton alliance, qu'ils ont abattu tes autels et tué tes prophètes par l'épée, je suis resté moi seul. Là, bon, il y a un commentaire juif qui dit ça c'est le péché d'Élie, c'est pour ça qu'il va être remplacé. Parce qu'il a dit moi seul. Et Dieu va lui dire non, il y en a 6000 qui n'ont pas fléchi le genou dans Baal. Tu oublies que tu n'es pas seul, qu'il y a tout un groupe. Donc au zèle, les Juifs manquent la compréhension de ce qu'engage la justice de Dieu. Paul formule ainsi ce qu'il fait lui-même par son ministère parmi les nations. Il veut transformer le zèle de ses frères selon la chair pour en sauver quelques-uns. On peut reprendre le début du 11, c'est là j'anticipais. Je demande donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple? Alors ça c'est quand même la grande question. Son peuple en bloc, tu as rejeté son peuple donc. Puisque, voilà, tout le jour, j'ai tendu les mains vers un peuple désobéissant et rebelle. Bon, bah donc, c'est la fin des haricots. Et on se contente de prendre un nouveau peuple, de nouvelles gens qui ne sont rien, pour en faire des réceptacles. Ce qui serait quand même, en passant, un aveu d'échec terrible pour Dieu, in fine. Dieu change de peuple comme on change de femme. Bon, bah, la première n'est pas bonne, j'en change. Donc, Dieu s'autoriserait le divorce, d'où la théologie des rabbins, il dit non, Dieu ne peut pas renvoyer comme ça sa femme. Bon. Si on prend la métaphore du couple, Dieu ne peut pas faire ça. Alors, évidemment, avec un peuple, on peut couper en morceaux, avoir un reste. Bon, dans une femme, c'est plus compliqué de dire, il y a un petit reste qui demeure. Bon, enfin, vous voyez l'idée. Dieu aurait-il rejeté son peuple? Bon. Première réponse, certes non. Ne suis-je pas moi-même israélite de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin? Très fier d'être de la tribu de Benjamin. Ça nous surprend un peu, mais enfin, c'est comme ça. Bon. Dieu n'a pas rejeté le peuple que d'avance il a discerné. Ou bien ignorez-vous ce que dit l'Écriture à propos d'Élie quand il s'entretient avec Dieu pour accuser Israël. Seigneur, ils ont tué tes prophètes, rasé tes autels, moi je suis resté seul et ils en veulent à ma vie. Eh bien, que répond l'oracle de Dieu? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Ainsi, pareillement aujourd'hui, il subsiste un reste élu par grâce. Si c'est par grâce, ce n'est plus en raison des œuvres, autrement la grâce n'est plus grâce. Bon, c'est toujours l'expérience spirituelle de Paul à Damas. J'ai rien fait pour. Rien dans ce que j'ai fait et de ce que j'étais n'aurait pu me préparer ou n'aurait pu justifier le choix qu'a fait Dieu de me prendre comme apôtre ou de me révéler ainsi le Christ. En plus, non pas qu'il était grand pécheur, il n'était pas pécheur du tout, mais il n'a rien fait de spécifique à cet égard, qui justifierait son choix. Alors, notez que ici, les exemples qu'il prend, on pourrait dire, sont les Juifs devenus chrétiens, mais qui continuent à être. Ne suis-je pas moi-même? Il ne dit pas, n'étais-je pas moi-même? Il dit, il est toujours membre du peuple. Donc, première réponse, il dit, ben, il y a quand même cette partie-là. Maintenant, on va voir que la question va rebondir sur les autres. Que conclure? Ce que recherche Israël, il ne l'a pas atteint, c'est-à-dire la justice profonde de Dieu. Mais ceux-là l'ont atteint qui ont été élus, choisis. Les autres ont été endurcis, selon le mot de l'Écriture. Dieu leur a donné un esprit de torpeur, ils n'ont pas Dieu pour voir, d'oreille pour entendre, jusqu'à ce jour. Donc là, on voit en direct pourquoi ce passage d'Isaïe et le texte clé du Nouveau Testament, le plus cité 5 fois, par tout le monde, qu'on trouve partout, à la fin des Actes, chez Paul, dans les autres évangiles, c'est Jean, ce texte d'Isaïe. Parce que ce texte d'Isaïe, voilà, ils ont des yeux pour voir et ne voient pas, des oreilles pour entendre et n'entendent pas, un cœur pour comprendre et ils ne comprennent pas, c'est le texte qui, pour eux, est à la fois le plus... décrit le mieux la réalité de ce qu'il voit. Enfin, c'est votre Messie quand même, nom d'un chien. reconnaissez-le. Et en même temps, dire cette non-reconnaissance vient de Dieu. C'est trop mystérieux pour que ce soit un malentendu. Quand Luc, à la fin des actes, acte 28, alors là je reprends les idées de Odile Flichy, ma collègue ici, alors on est à 300% sur la même longueur d'onde là-dessus, c'est-à-dire que dans les actes, Luc est fidèle à Paul en ce que la main est toujours tendue à l'Israël rebelle, on va dire. Et que cette idée que Paul, à chaque fois, il dit « Bon, puisque vous n'écoutez pas et que vous ne voyez pas, je vais aller chez les païens. » Et hop, on le retrouve la semaine d'après, le mois d'après, dans la synagogue. Donc à chaque fois, il dit « C'est terminé. » Et puis hop, il recommence. Elles sont bien vraies, ces paroles que l'Esprit a dites à vos pères par la bouche d'Isaïe, acte 28, 25, 26 suivantes. « Va trouver ce peuple et dis-lui, vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas, vous aurez beau voir, vous ne verrez pas, c'est que le cœur de ce peuple s'est épaissi. » Bon, c'est une image à partir du gras, c'est vraiment l'infarctus. Vous avez du gras dans les artères, le cœur s'est épaissi. « Ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent. » Alors là, autre grand mystère, alors moi j'ai la BJ, là je ne sais pas ce que vous avez, la BJ dit « et je les aurai guéris ». Mais on peut traduire « et je les guérirai au futur ». C'est-à-dire que le texte finit quand même, alors « et je les aurai guéris » en français, c'est un peu dommage, c'est tout bad. J'aurais pu, mais le train est passé. « Je les guérirai au futur », ça dit que même si là il y a l'aveuglement, il viendra un temps où ils verront. La tobe a « et je les guérirai ». Voilà, alors « et je les guérirai », futur, point d'interrogation, c'est pas mal, parce que le point d'interrogation dit, c'est toujours le mystère de la liberté. Ce qu'avait dit Ludwig Wittgenstein, je ne sais pas si vous connaissez le philosophe Ludwig Wittgenstein, grand philosophe juif autrichien qui a fini à Oxford, en Angleterre, et qui, interrogé sur l'enfer dans les années 30, avait dit par rapport à l'apocatastase, c'est-à-dire l'idée que tous les hommes seront sauvés. Mais si on affirme demain, on lui disait, mais enfin, l'Église pourrait arrêter avec cette connerie de l'enfer, etc. Bon, faut arrêter avec ces affaires-là. Il dit, mais attendez, mais si vous enlevez le drame de l'existence, bah, c'est plus drôle. Bah, il n'y a plus d'enjeu. Alors, on peut dire, mais c'est ce que dit Paul à la fin. Il dit, tout Israël sera sauvé. Bah, alors, il n'y a plus d'enjeu. À la fin, tout le monde gagne. Vous dites à un enfant, on va jouer un jeu, à la fin, ce qui est bien, c'est que tout le monde gagne. Bon, à mon avis, vous n'avez pas mobilisé les troupes. Parce que, je veux dire, bon, bah, si tout le monde gagne, tout le monde a la même récompense, bah, il n'y a plus à se fatiguer. Donc Wittgenstein, un peu lucidement, qui était agnostique, même s'il avait été tenté par le catholicisme, très présent dans sa famille proche, comme chez beaucoup de juifs autrichiens de l'époque d'ailleurs, Wittgenstein dit non, il faut garder l'enjeu du drame, comme dirait Balthazar, qui est un drame. L'enfer, une question. On a le droit de croire que l'enfer sera vide, mais on ne peut pas affirmer qu'il n'existe pas, parce que si on commence à dire ça, eh ben on prive l'existence d'enjeux, de drames, de... Le point d'interrogation, c'est important. Voilà. En même temps, le futur, c'est sympathique aussi. Le futur dit, bon, Dieu, il peut y arriver quand même. Donc on doit croire qu'il peut y arriver. Mais si on l'affirme avec une certitude absolue, eh ben, on fait quelque chose d'erroné. Voilà. Alors ce que j'aime bien, moi, c'est la position de Kierkegaard. Vous connaissez la position de Kierkegaard là-dessus. Kierkegaard, il dit, l'enfer n'est une question que pour moi. Je peux dire, tous les autres seront sauvés, sauf moi, je ne sais pas. J'ai le droit d'affirmer le salut de tout le monde, sauf de vous. Donc l'enfer reste une question pour moi. Si je dis, tout le monde sera sauvé, moi compris, alors là c'est l'hérésie. En ça, l'Église catholique orthodoxe, on l'a toujours dit, il y a 10 conciles qui l'ont dit. Donc ça, c'est une hérésie si vous affirmez que, voilà, tout le monde sera sauvé, point barre, sans point d'interrogation, et donc voilà. Et donc l'enfer, c'est un... C'est un pur truc théorique, on ne sait pas trop pourquoi c'est là, on peut le supprimer. Non, 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 ça on ne peut pas. Bon. Donc cette citation de l'endurcissement, elle est clé. David dit aussi que leur table soit un piège, un lacet, une cause de chute, leur serve de salaire, que leurs yeux sans ténèbres pour ne pas voir, et fais-leur sans arrêt courber le dos. Enfin, c'est la même idée, en plus dur. Dieu leur a donné un esprit de torpeur, vous savez, tardema, cette espèce de torpeur bizarre qui tombe sur Adam, sur Abraham à certains moments, et qui fait qu'ils peuvent... C'est un sommeil bizarre. C'est Dieu qui met 10 cachets de Valium dans le verre d'Adam et d'Abraham la veille au soir. Et donc, alors, on peut leur ouvrir le ventre, on peut leur faire plein de choses, ils ne sentent rien. Bon. Donc, ça veut dire que c'est une torpeur forte, c'est une torpeur théologique. Bon. Je demande donc, serait-ce pour une vraie chute qu'ils ont bronché? Alors là, bon, bronché, je ne sais pas vous en français, mais enfin, on ne comprend pas. Bon, trébucher, c'est mieux. Parce que broncher, les chevaux bronchent, à ma connaissance, mais moi, je ne bronche pas quand je marche. Enfin, je ne sais pas quel bruit je fais, mais je ne bronche pas. Bon. Donc, serait-ce pour une vraie chute qu'ils ont trébuché? Ça, vous voyez, c'est une invention géniale. Ça, c'est génial. Parce que trébucher, c'est tomber, mais pas complètement. C'est presque ça. Vous allez tomber, mais vous ne tombez pas. Mais leur faux pas, leur trébuchement, a procuré le salut aux païens afin que leur propre jalousie en fût excitée. Et si leur trébuchement a fait la richesse du monde, comprenez, a fait le salut des païens, et leur diminution, la richesse des païens, que ne fera pas leur totalité? Or, je vous le dis à vous, les païens, je suis bien l'apôtre des païens, et j'honore mon ministère, et j'en suis fier, et je ne regrette rien de rien, mais c'est avec l'espoir d'exciter la jalousie de ceux de mon sang et d'en sauver quelques-uns. Alors certains ont dit, là Paul, tu exagères, parce que tu instrumentalises les nations, comme s'il était missionnaire auprès des gens, uniquement pour que les juifs aient le zèle et se convertissent. Bon, alors voyez, c'est un peu rhétorique. Mais qu'est-ce que ça redit? Ça redit ce qu'il a dit au chapitre 9. J'ai une grande douleur, et au début du 10, c'est ma prière en mon cœur pour Dieu. Mon ministère auprès des païens n'a pas pour objectif la condamnation des juifs, pour dire désormais je les oublie, ou basta, bon débarras, c'est plus mon problème. J'ai toujours espoir, espérance de leur salut. Je m'intéresse à eux et j'ai bon espoir que c'est un trébuchement. Car, alors là il y a un magnifique calva romer, si on peut dire, raisonnement a fortiori, si leur mise à l'écart, le mot est très intéressant, mise à l'écart, c'est pas condamnation, c'est pas jugement, c'est pas... leur mise à l'écart fut une réconciliation pour le monde, que sera leur admission, sinon résurrection d'entre les morts? Ça, c'est très fort pour identifier le moment du retour, de l'admission de ceux qui ont trébuché, avec la résurrection. C'est-à-dire le moment, effectivement, du salut de tous. Bon. Paul présente ceci, à une fois de plus, il ne dit pas, voilà ma petite théologie personnelle, qu'après avoir bien réfléchi, je vous présente. Et puis moi, je pense bien être un apôtre, avoir l'esprit de Dieu, je ne raconte pas des bêtises. Non, il dit, c'est un mystère que m'a révélé Dieu. Donc déjà que toute la révélation est révélation, que tout le Nouveau Testament est inspiré, là on est vraiment dans l'inspiration de l'inspiration. Bon. Il dit, la conversion des nations à l'Évangile et la jalousie d'Israël sont un élément, en quelque sorte, prévu dans le dessein de Dieu. Alors, être excité à la jalousie semble être pour Paul un venir à la foi. Il faut comprendre, être excité dans la jalousie, ça veut dire un venir à la foi. Cette foi ne pourra s'enflammer que si Israël voit à l'œuvre l'action de Dieu et son agir de miséricorde, concrètement, chez les chrétiens. Alors ça, je pense que c'est un potentiel largement sous-estimé. Israël pourra voir dans les communautés chrétiennes un peuple qui vit dans la justice, qui accomplit la Torah dans la charité, et qui montre ainsi que le salut de Dieu est venu, que les promesses sont accomplies, un peuple messianique montrant que le Messie est venu. Bon, je ne sais plus qui a dit dans les années 70, mais c'est le même contexte, la même idée. Ayez un peu plus des faces de ressuscité et le monde croira quand même mieux. Bon. Donc, pour les Juifs, si la pratique des communautés chrétiennes en termes de charité, d'esprit saint, d'entraide, de solidarité est supérieure à ce que vivent déjà les communautés juives, alors il se passera peut-être quelque chose. si ce n'est pas au même niveau, eh ben, il ne risquera pas de se passer grand-chose. C'est ça la jalousie. C'est un concept d'ailleurs que Mahomet, sans doute peut-être à cause des communautés juives d'Arabie, a repris dans le Coran. Dans le Coran, on trouve de très jolies choses. On trouve des choses moins jolies, mais on trouve des très jolies choses. Vous savez, il y a ce verset sur l'émulation. Bon, il y a les juifs, il y a les chrétiens, il y a les sabéens. Bon. Rivaliser dans le bien. C'est un peu l'idée de Nathan d'Hervé. Celui qui fera le plus le bien, c'est sans doute lui avec qui est Dieu. Faisons la compétition dans le bien. C'est une belle idée. Plutôt que dans le nombre d'attentats suicides. Donc, ça c'est un peu l'idée, la jalousie. Voilà. Cette vision devrait être instrument de la conversion d'Israël. C'est-à-dire de son émerveillement devant l'action de Dieu. En voyant le bien que vous faites, je vais paraphraser un certain Jésus, en voyant le bien que vous faites, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. En voyant des païens convertis, des païens, des pêcheurs de païens, pensez à tout la dose de mépris que cela veut dire, Galates 2.16, en ce temps-là et encore un peu aujourd'hui. Je vous ai dit, moi je connais un ami rabbin qui était dans une yeshiva orthodoxe en Israël, qui l'a quitté, il est devenu ma sortie, devenu conservative. Sans, je ne supportais plus le discours sur les païens, virgule sur les femmes aussi. Bon. Parce que c'était d'un mépris souverain. Donc l'idée que, en voyant des païens qui agissent comme des justes, pour Dieu, ben ça, ça impressionne. Ce matin même, dans la soutenance de thèse qui a eu lieu ici, du père Steves, sur l'imagination ontologie, il a cité une phrase magnifique qui dit, bon, ce qui convainc le plus les gens, ce n'est pas les arguments, c'est quand même la preuve par les faits, en théologie. Dit en d'autres termes, Mère Teresa et des gens comme ça, ils font plus pour la propagation de la foi que des pavés de théologie fondamentale. Bon. Donc ce qui touche les juifs et les pas juifs d'ailleurs, enfin ce qui touche tout le monde, c'est eh bien, les actions où on se dit, ben quand même, il y a un truc. Un pardon qui est donné, ou je ne sais pas. Ou alors, d'ailleurs, d'un autre côté, pour des croyants uniquement, ça, effectivement, le témoignage des moines. Ça touche ça aussi à des musulmans, à des juifs. Plus des juifs, d'ailleurs, que des musulmans. Mais bah, quand même, ces gens-là prennent la foi au sérieux. Et vous allez dans une trappe, vous dites, bon, là, on rigole pas, quoi. C'est pas un judaïsme au rabais, parce qu'il y a un peu cette idée, depuis Maïmonide, bon, le christianisme, c'est la Torah en 7 leçons pour les nuls. Nous, on pratique vraiment les 613 commandements. Bon, les païens, il ne faut pas leur demander la lune non plus. Hein. Donc, on demande des trucs un peu basiques. Bon. Mais enfin, les moines, c'est un peu au-delà du basique quand même. Là, pour Dieu, on en fait beaucoup. Donc ça, on peut se dire, tiens, c'est quand même pas mal. Je vois qu'il est temps de faire la pause, donc on va faire la pause. Donc, on reprend à 20. Voilà, on va finir le chapitre 11. Le sommet quand même de ces trois chapitres, c'est la fin du 11. Donc je suis en 11, verset 16. Or si les prémices sont saintes, toute la pâte aussi, et si la racine est sainte, les branches aussi. Donc en un seul verset, un petit peu deux images différentes. La deuxième de l'arbre va être développée dans la métaphore de la greffe. Celle des prémices et de la pâte, bon, le levain et la pâte, tout ça, ça a été, Jésus l'a employé, semble-t-il. Paul l'utilise dans Corinthiens pour parler du levain, un peu de levain fait lever toute la pâte, mais là, il ne va pas tellement développer ça. Mais si quelques-unes des branches ont été coupées, tandis que toi, sauvageon d'olivier, bon, olivier sauvage, tu as été greffé. Notez bien, greffé parmi elles, pas à la place d'eux. Parmi, Donc des branches ont été coupées, quelques-unes des branches ont été coupées, pas toutes. Exemple de branches non coupées, Paul, Priscille, Aquila, Barnabé, etc. Tu as été greffé parmi elles pour bénéficier avec elles de la sève de l'olivier. Ne va pas te glorifier aux dépens des branches, comprendre des branches coupées. Ou si tu veux te glorifier, ce n'est pas toi qui portes la racine, c'est la racine qui te porte. Tu diras, mais on a coupé des branches pour que moi je fusse greffé. Fort bien, elles ont été coupées pour leur incroyance. Et toi, c'est la foi qui te fait tenir. Ne t'enorgueillis pas, crains plutôt. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, prends garde qu'il ne t'épargne pas davantage. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, envers toi bonté. Pourvu que tu demeures en cette bonté. Pensons au prophète, à Jérémie, si le juste se maintient dans sa justice. Parce que même le méchant, si le méchant change, ah ben il va rentrer. Bon. Autrement, tu seras retranché toi aussi. D'autres termes, l'histoire n'est pas finie. Ça continue. Et eux, s'ils ne demeurent pas dans l'incroyance, incrédulité m'énerve prodigieusement, hein, vous avez compris, bon, l'incroyance, ils seront greffés. Dieu est bien assez puissant pour les greffer à nouveau. Alors l'image greffée à nouveau, évidemment ils n'étaient pas greffés puisque c'était la branche naturelle. Mais Israël est déjà une greffe dès le départ, on peut dire, avec Abraham. Bon. En tout cas, on comprend l'idée. On va remettre les branches. En effet, si toi tu as été retranché de l'olivier sauvage auquel tu appartenais par nature et greffé contre nature sur un olivier franc, vrai, hein, combien plus, de nouveau Calvin Romer, raisonnement combien plus, a fortiori, combien plus, eux, les branches naturelles, seront-ils greffés sur leur propre olivier? Alors, quelques mots sur ce passage. Alors, beaucoup de gens ont dit, mais Paul, il connaît rien à l'agriculture. D'accord, parce que c'est pas comme ça qu'on fait dans les plantes. Justement, justement, le fait que Dieu s'y prenne à l'envers, si je puis dire, c'est typique dans les manières de Dieu. Il fait le plus dur. Il fait ce qu'on ne doit pas faire. On greffe pas du pas bonne qualité sur du bonne qualité. On fait le contraire. Enfin, je connais rien à l'agriculture non plus. Enfin, les notes de mes Bibles m'expliquent que c'est comme ça qu'il faut faire. Bon, donc là, ça fait... Aucun agriculteur ne fait ce que Dieu fait ou ce que Paul dit que Dieu fait. Bon. Et il y a quelques années, il y a 10 ans, à un colloque, le rabbin Krigé, dont je parlais tout à l'heure, me dit, ça me rappelle un midrash sur Ruth et Naama, que j'avais trouvé fort intéressant. Parce que le mot greffe, en italien, je suis fatigué, en hébreu, le mot greffe était greffé, on peut rapprocher de béni. Bracha, berech, du genou, bizarrement. De la racine du genou. Alors, mon yastro dit parce que pour bouturer, pour greffer, on met un genou en terre pour traficoter la plante. Bon, je ne vais pas contredire un aussi auguste dictionnaire d'hébreu et d'araméen, mais enfin, le fait est que le Midrash dit ceci. En toi seront bénies toutes les familles de la terre, dit Dieu Abraham. Verset Genèse 12, verset 3. Bon. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Il faut comprendre. En toi seront greffées toutes les familles de la terre. Exemple. Ainsi, Ruth, la Moabite, a été greffée sur Israël et a donné naissance au roi David. Puisque Ruth est l'arrière-grand-mère du roi David. Or, il est écrit, aucun Moabite ne sera admis à la communauté d'Israël jusqu'à la 10e génération. Donc, il y a un problème. Et Naama l'ammonite, alors Naama, si ma mémoire est bonne, c'est la femme de Roboam, du roi Roboam. donc une ammonite, le peuple d'Ammon, aussi un peuple pas bien, pas cacher du tout, au nord de la Jordanie. Donc ces deux-là ont été greffés sur Israël et sont dans les ancêtres du Messie. Et donc cette idée que seront greffés des rameaux des nations dans la descendance d'Israël et du Messie, c'est assez intéressant comme midrash. Et ça fournit un peu un arrière-plan peut-être, interprétatif, au texte de Paul. Non pas que Paul connaissait ce midrash, c'est pas ce que veut dire cela, mais que cette discussion sur qui est greffé dans la descendance d'Israël, et qu'il y a dans les Écritures des trucs un peu bizarres, dans lesquels des gens qui ne devraient jamais rentrer rentrent quand même. Il y a plein d'exemples, même Rahab, la famille de Rahab, la prostituée de Jéricho, elle est intégrée au peuple d'Israël. Bon. Et puis il y a d'autres groupes. Donc l'image, elle est vraiment assez géniale et assez subtile. Elle dit pas d'abord « toutes les branches ont été coupées, vous avez remplacé toutes les branches, et donc maintenant, Dieu peut éventuellement refaire la même opération ». C'est un peu plus subtil. Certaines branches ont été coupées, Dieu peut les recouper, toi qui as été greffé ne va pas faire le fier. Donc si vous voulez, par rapport au contexte sociologique que j'évoquais au début, des pagano-chrétiens de Rome qui se la jouent, qui disent « ah ben non, maintenant c'est nous les patrons, hein ». Là Paul dit « attendez les amis, vous n'avez pas compris, ne faites pas les fiers, ne vous enorgueillissez pas. » Et en tout cas, comme il a dit au début, ne suis-je pas moi-même ? En tout cas Priscille et Aquila et les autres, que peut-être vous refusez d'accepter de plein droit dans la communauté, eh bien eux c'est des branches authentiques. Ils ne sont là que par grâce, comme vous. Bien sûr, mais n'oubliez pas que vous êtes greffé. Bon, c'est un appel radical à l'humilité. Donc on en arrive, avec cette dernière métaphore, au sommet, à la conclusion et à la révélation du mystère. 11, 25, 32. Je ne veux pas, frère, vous laisser ignorer ce mystère, de peur que vous ne vous complaisiez en votre sagesse. Une partie d'Israël s'est endurcie, là on repasse comme Pharaon dans l'actif. Il aurait écrit « une partie d'Israël a été endurcie », ça pouvait encore passer, puisque c'est ce qu'il a dit avant, là il préfère « s'est endurcie », jusqu'à ce que soit entrée la totalité des nations, pléroma, le plérôme des nations. Ce qui nous rappelle le verset 12. Si leur faux pas a fait la richesse du monde et leur domination la richesse des païens, que ne fera pas leur totalité ? Là, c'était le plérôme des fils d'Israël. Donc, il y a deux plérômes. Totalité. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Et ainsi, tout Israël sera sauvé, comme il est écrit, « De Sion viendra le libérateur, il ôtera les impiétés du milieu de Jacob ». Et voici quelle sera mon alliance avec eux lorsque j'enlèverai leurs péchés. Donc péché il y a peut-être, mais on peut l'enlever. Alors, après il y a la phrase qu'a repris Vatican II dans Nostra Aetate. Ennemi, il est vrai selon l'évangile, à cause de vous. Il faut comprendre au sens fort, hein, ennemi de Dieu. Il est vrai selon l'évangile, pour vous. Ils sont, selon l'élection, aimés à cause de leur Père. Car les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. Donc, si tant est que cette génération est ennemie, et endurcie, et aveuglée, et a trébuché, pour une bonne part, la racine, leurs ancêtres sont les patriarches. C'est la théologie des mérites des Pères. Béni Seigneur, le serviteur, le fils de ta servante. Bon. Donc, les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. Les promesses faites par Dieu au Père, à Abraham, Isaac et Jacob, vont quand même pas être annulées parce que les petits-fils ont fait des bêtises. En effet, de même, alors là, il y a aussi un texte très dense. Bon. En effet, de même que jadis, vous, virgule, les païens. Vous avez désobéi à Dieu. Bon, ça, c'est ce qu'il a dit au début. Et vous avez adoré les animaux et les étoiles et la lune et le soleil et vous avez fait plein de bêtises. Bon, très bien. Alors que vous auriez pu reconnaître le Créateur au-delà des créatures. Enfin, vous avez désobéi à Dieu. Et que maintenant, il y a plusieurs nunes, maintenant, vous avez obtenu miséricorde grâce à leur désobéissance, puisque dans l'idée de Paul, c'était un peu providentiel que ce faux pas a provoqué les apôtres à aller vers les nations, les a chassés de Judée, etc., donc à aller sauver les païens. Donc leur faux pas, leur erreur, a été votre chance et votre bienfait. Maintenant, eux, de même, maintenant, ont désobéi grâce à la miséricorde exercée envers vous, afin qu'eux aussi, ils obtiennent, accrochez-vous au siège, tenez-vous bien, maintenant miséricorde. Alors là, il y a des copistes au IIIe siècle, non, là, Paul, il y a une erreur. Il faut dire, afin qu'eux aussi, ils obtiennent, alors demain, bientôt, tout ce que vous voulez, mais enfin, ce troisième maintenant anticipe sur la fin, sur le tout Israël sera sauvé. Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire à tous miséricorde. Alors, ce troisième nun, ce troisième maintenant, c'est l'un des maintenant les plus géniaux de Paul. Parce que ça veut dire, je vois déjà, enfin je vois, Dieu m'a permis de voir ce troisième maintenant. Il pourrait écrire, ils obtiendront miséricorde, afin qu'eux aussi obtiennent avec une espèce de petit futur miséricorde. Non, afin qu'ils obtiennent maintenant miséricorde. Donc il y a une espèce de concrétion du temps qui fait que le salut ultime du tout Israël sera sauvé du verset 26 passe au présent. Ça c'est quand même incroyable. La phrase du verset 32 alors peut être mal interprétée, on est d'accord. C'est ein Liebling de Paul. Je veux dire, c'est une phrase qu'il a fabriquée longtemps avant. Et qu'il a mise dans la lettre aux Galates. Galates 3, verset 22. L'Écriture a tout enfermé sous le péché, afin que la promesse par la foi en Jésus, Messie, soit accordé à tous ceux qui croient. Alors, la différence. Dieu a enfermé tous les hommes. L'Écriture a enfermé tous les hommes sous le péché. Alors Dieu, l'Écriture, reconnaissait que la variatio est minime. Quand on dit l'Écriture, c'est évidemment la parole de Dieu. Bon. Afin de faire à tous miséricorde, afin qu'à tous la promesse soit accordée à ceux qui croient. C'est la même structure. Ça nous renvoie encore également au chapitre 3, verset 22. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et tous sont justifiés par la faveur de sa grâce en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ. 22-23. Et dans les versets 6 à 8, je pourrais le reprendre, mais il y a des choses analogues. Bon. Essayons de se représenter le mystère. Et c'est quoi le mystère d'ailleurs ? Ce qui est nouveau, semble-t-il, c'est qu'une fin est donnée pour l'endurcissement. Il durera jusqu'à ce que soit atteint le plérôme. Donc, on peut ainsi présenter le mystère. Dieu a provoqué l'endurcissement d'une partie d'Israël, appelée le trébuchement, afin que la plénitude des nations entre dans le monde de la foi, afin que soit constitué le peuple de Dieu des temps derniers, si je parle comme le Concile. Alors Dieu mettra fin à cet endurcissement, et cet agir gracieux de Dieu envers Israël correspondra, en Israël, un zèle pour Dieu, en réponse à la plénitude des nations. Le mystère, ce serait en fait les moyens que Dieu a voulu pour que le salut parvienne à Israël. Pourquoi fallait-il que le salut à Israël passe par les nations? Alors Paul peut dire, mais j'ai de bons arguments dans l'Écriture qui vont dans cette direction. En citant en Romains 11, 26, Isaïe 59, un chapitre qui parle du pèlerinage des peuples à Sion. Il y a beaucoup de passages prophétiques où on dit « les peuples monteront à Sion adorer le Seigneur, hein, se tourneront vers Dieu. Alors on craindra depuis le couchant le nom du Seigneur, depuis le soleil le levant sa gloire, car il viendra comme un fleuve que précipite le souffle du Seigneur. » Donc il y avait tout un ensemble de textes prophétiques qui disaient qu'en ce jour, s'illuminera une lumière qui attirera tous les peuples pour trouver le salut. Alors on voit le renversement que Paul fait subir à l'image traditionnelle. Ce ne sont pas les nations qui viennent à la foi en regardant la lumière d'Israël, quoique Jésus est bien la lumière d'Israël, mais Israël qui viendra à la foi en regardant les nations devenues croyantes. C'est ça le truc bizarre de Dieu, le mystère. Israël verra la conversion des païens. C'est une vision de l'histoire étonnante. Paul ne peut se résoudre à en rester avec la résistance et l'endurcissement, si l'on peut dire. Alors je dis Paul, j'aurais pu dire Dieu. Paul ou Dieu. Le Dieu de Paul, si vous voulez. Le Dieu qui parle à Paul. Donc, ces gens qui lui créent tant de problèmes dans les synagogues, qui lui ont donné 5 fois les 39 coups de fouet, qu'il a le dos couturé de cicatrices, qu'il a été lapidé, qu'il est bariolé. C'est-à-dire, on parle quand même de gens qui en ont fait baver à Paul. Des gens qui étaient comme lui, sachant que Paul avait fait la même chose. En persécutant, voilà, je ne mérite pas d'être apôtre car j'ai persécuté l'Église de Dieu. Luc va nous dire, il était au pied au moment où on assassinait Étienne. Bon. Dans les lettres de Paul, il dit jamais qu'il est allé jusqu'à mort d'homme. Notez que Luc ne dit pas qu'il a... Il est mort, il gardait les vêtements. Enfin bon, ça veut dire quand même, j'approuvais la chose. Et le verbe qui est employé, c'est diokeo, persécuter, qui est très fort. Alors ça peut vouloir dire jusqu'à créer des problèmes, jusqu'à fouetter, jusqu'à enfin, tuer, pas forcément, mais enfin c'est un verbe fort aussi. Donc cet endurcissement, Dieu l'a laissé se produire, et il a pour but de faire parvenir les païens au salut dans un premier temps, et dans un deuxième temps, de revenir comme par ricochet, comme par boomerang. En fait, c'est la théologie boomerang. Ça revient par boomerang sur Israël. Cette théologie n'est pas une spéculation complètement barbare inventée par Paul. Elle s'appuie sur le patrimoine de la tradition d'Israël, sur la Torah, endurcissement. Reste saint, alliance, zèle, pèlerinage des nations. Tout ça, Paul s'appuie sur l'Écriture. Y compris donc l'image que Dieu poursuivra son histoire avec Israël en appelant un peuple parmi les nations, et déjà dans les prophètes, Sophonie, toutes les nations les plus lointaines se prosterneront devant lui, chacune sur son sol. Donc le mystère que Paul admire et que Dieu lui révèle se trouvait bien caché dans les Écritures. Alors ça c'est aussi intéressant, c'est un peu comme Jésus et les disciples d'Emmaüs, où Jésus ne fait pas un cours de théologie nouveau, il explique les Écritures. La nouveauté est déjà dans les Écritures anciennes. Alors je ne sais pas si vous connaissez Isaïe 19. Isaïe 19, et beaucoup de Juifs ne connaissent pas Isaïe 19. Et c'est bien dommage, parce que Isaïe 19, il vaut mieux aussi être assis au fond du siège. Parce que tenez-vous bien, en ce jour-là, il y aura un autel, je prends le verset 19-19 par exemple, il y aura un autel dédié à Adonai au milieu du pays d'Égypte et près de la frontière, une stèle dédiée à Adonai. Ce sera un signe et un témoin de Adonai Tsevaot au pays d'Égypte. Quand ils crieront vers Adonai par crainte des oppresseurs, il leur enverra un sauveur et un défenseur qui les délivrera. Les Égyptiens, la quintessence de l'ennemi d'Israël. Bon, Israël, c'est un tout petit territoire, jusqu'à aujourd'hui, qui est coincé entre deux grandes puissances, l'Égypte au sud et la Syrie-Babylonie au nord, au nord-est, et qui est régulièrement écrasé par les uns et par les autres, et qui a été deux fois, enfin qui a été régulièrement trahi par l'Égypte, bon, déporté en Égypte au départ, et puis ensuite déporté à Babylonie, en Babylonie, qui ont détruit Jérusalem, etc. Bon. Donc c'est les deux ennemis archétypiques. C'est les Allemands et les Russes pour les Polonais, si vous voulez. La Pologne, elle est mal placée. Elle est entre les Allemands et les Russes. Bon, ils sont régulièrement écrasés par les uns ou par les autres. Et voilà ce qui est dit de l'Égypte. Le Seigneur se fera connaître des Égyptiens, et les Égyptiens connaîtront le Seigneur en ce jour-là. Ils offriront des sacrifices et des oblations. Ils feront des vœux, Nedarim, hein, à Adonai, et ils les accompliront. Et si Adonai frappe les Égyptiens, il frappera et il guérira, comme Osée 6.2. Ils se convertiront au Seigneur qui accueillera leurs demandes et qui les guérira. Ce jour-là, il y aura un chemin allant de l'Égypte à l'Assyrie. L'Assyrie viendra en Égypte, l'Égypte en Assyrie. L'Égypte servira, sous-entendu le Seigneur, avec l'Assyrie. Ce jour-là, Israël viendra en troisième avec l'Égypte et l'Assyrie, bénédiction au milieu de la terre, et bénédiction que prononcera le Seigneur Tsevaoth. Alors là, tenez-vous bien. Bénis mon peuple l'Égypte, et Assur et l'Assyrie, l'œuvre de mes mains, Israël, mon héritage. Donc c'est un texte fabuleux qui annonce déjà la conversion des nations. Des deux nations les plus ennemies possibles. Et tous les versets qui sont dits, ils se tourneront vers lui et ils feront leurs vœux, ils les accompliront, etc., sont des versets qui sont dits normalement des fils d'Israël. Donc Isaïe voit déjà la conversion des nations. Alors, il y a des différences avec notre texte. Il n'est pas dit que c'est parce qu'Israël avait péché que du coup le Seigneur a tourné vers l'Égypte, etc. Mais, bon, il y a quand même le libérateur. Le Seigneur leur enverra un sauveur, un défenseur. Bon. Il faut juste rajouter, pour l'Évangile ou pour Paul, il faut juste rajouter dans le scénario que ce libérateur, c'est celui qui est envoyé à Israël et qu'Israël n'accueille pas. Je rajoute un verset dans Ésaïe 19. Et le Seigneur enverra un libérateur aux fils d'Israël qui n'en voudront pas, et ce libérateur sera accueilli par les Égyptiens et les Assyriens. Alors, et je continue, et à la fin je rajoute, et Israël reconnaîtra alors son sauveur, et c'est bon. Et c'est bon. Donc il y a une différence, mais il y a déjà cette annonce. Alors, dans ce passage de Romains, on voit bien que la démonstration de Paul n'est pas dirigée contre les Juifs, y compris d'ailleurs les Juifs non-croyants. Paul a comme objectif principal, semble-t-il plutôt, d'avertir les pagano-chrétiens, avec cette image de la greffe. Il ne faut pas oublier non plus que Paul ici ne s'adresse pas à la synagogue. Il s'adresse à l'Église, et une Église où il y a beaucoup de pagano-chrétiens. Il a été informé du danger que ces pagano-chrétiens condamnent Israël, s'enorgueillissent de leur appel, et il réaffirme avec force et émotion, et sérieux théologique, que le dessein et la place d'Israël dans le plan de Dieu demeurent. N'allez pas croire que c'est la fin de l'histoire. Le troisième maintenant. Et là, nous ne pouvons que regretter que les Églises n'aient pas pris plus au sérieux cette théologie et cet avertissement de Paul au temps de leur splendeur. Les relations avec la synagogue en auraient été différentes. Hein on a quand même, grosso modo, on peut le dire, entre 380 et 1950, manqué d'humilité. Et des grands noms. Saint Ambroise, c'est pas rien, c'est celui qui a quand même aidé à la conversion de Saint Augustin. enfin, qui l'excommunie l'empereur ou qu'il écrive à Théodose que c'est un scandale qu'il ait demandé aux chrétiens de payer pour la destruction d'une synagogue qu'ils avaient eux-mêmes incendiée, ce qui paraît quand même la moindre des choses. Ah, c'était un péché capital, il faut brûler les synagogues, c'est très très bien de brûler les synagogues. On ne peut pas reprocher aux chrétiens tout de même d'avoir un petit moment de colère, de temps en temps, bien légitime, et de foutre le feu aux synagogues. Saint Ambroise. Bon. Je ne parle pas des sermons de Chrysostome, qu'il vaut mieux pas lire sur la place publique. Bon. D'un autre côté, on peut se réjouir que nous ayons Romains 9 à 11. On peut dire, ben voilà. En tout cas, l'antidote théologique à l'antijudaïsme chrétien, il n'y a pas besoin d'aller chercher dans des théologiens obscurs. C'est au cœur, au centre, au sommet de la dernière lettre de Paul, sur 3 chapitres, de façon éclatante. Donc, en comparant 1 Thessaloniciens 2 et Romains 11, on voit bien la différence. L'une est la conclusion, Romains 11, d'une longue méditation sur le dessein de Dieu, tandis que l'autre est un aparté pointant, de fait, dénonçant les persécutions des autorités juives contre les chrétiens. Donc Paul peut par moment parler sous le coup de la colère et dire que ces juifs incroyants qui le lapident et qui le fustigent vont tomber sous le coup de la colère de Dieu et ont tort. Tout à fait. Une fois de plus, quand je dis Romains 9 à 11 n'annule pas ce qu'il a dit dans Thessaloniciens 2. Il n'annule pas le fait qu'il y a eu ce qui s'est produit, à la fois vis-à-vis de Jésus, même si je vous ai dit que ce n'est pas le plus important, et ce qui se passe vis-à-vis des apôtres. Il ne dit pas que c'est bien. Il ne dit pas qu'ils ne sont pas aveugles, il dit qu'ils sont aveugles. Il dit simplement que ce n'est pas le dernier mot de Dieu. Ce n'est pas le dernier mot du dessein de Dieu. Donc, en Romains 11, 17, 22, Paul avertit les paganos chrétiens et dans le même mouvement montre ou affirme le salut d'Israël dans un maintenant à venir, pour employer un oxymore. Donc, ce demain qui est maintenant, ou ce salut pour ceux qui sont aveugles, bon, c'est ce mystère. L'endurcissement partiel d'Israël aura une fin, alors tout Israël sera sauvé. Alors les théologiens discutent comment ? Comment cela se passera-t-il ? La citation a-t-elle pour but de dire que le salut viendra ou de dire un mot sur le comment ? Alors la phrase de Romains, du début de Romains 11 sur la résurrection des morts peut faire penser que ça a quelques rapports avec la résurrection finale. Que sera leur réconciliation, leur admission, sinon une résurrection d'entre les morts ? Tout Israël accepterait que Dieu, par le Christ, sauvera le monde qu'il avait rejeté. Et Israël aussi sera sauvé, comme les nations, en ayant foi dans le Christ. Les gens disent, mais bon, Israël pourrait être sauvé par un autre moyen. Une espèce d'apparition spéciale de Dieu au dernier moment. Bon. Enfin, ça paraît un peu tourneberlificoté, et surtout quand on connaît la centralité du Christ pour Paul. Donc je pense plutôt, moi je suis de ceux qui pensent parmi les théologiens, que c'est plutôt de l'ordre d'une révélation éclatante du Christ qui serait faite, mais voyez que c'est difficile de la penser dans l'histoire. Et c'est là où nos frères ultra-évangéliques américains se trompent. Vous savez que c'est les chrétiens sionistes américains qui soutiennent à fond Israël, ils ont comme idée que... on va provoquer, en fait, ils veulent provoquer la rédemption, ils veulent provoquer la fin du monde. Donc, puisque ça va se passer à la fin du monde, en gros, dans leur idée, bon, donc il faut déjà que les Juifs soient dans une situation concentrée et désespérée. Et à ce moment-là, il y aura une super méga apparition de Jésus, alors où vous voulez, hein, sur le mont du Temple, quelque part, un peu bien visible à 200 km à la ronde. Et alors, tous les Juifs le reconnaîtront comme le Messie. Et alors, c'est la fin du monde. Mais enfin, le problème, c'est qu'ils veulent la provoquer. Ils connaissent le scénario, donc il faut favoriser les choses qui vont dans le sens du scénario. Vous voyez qu'on est à 10 000 km de Paul. Paul, il ne donne pas un scénario ici. Ce n'est pas une question de temporalité. Donc, il ne faut pas faire trop de spéculations théologiques sur le comment. Bon, d'un autre côté, les théologiens qui plaident pour la double voie de salut, hein, c'est-à-dire qui disent, bon, bah, il y a le salut du Christ pour les païens, et puis, bon, alors les juifs, il y aura un truc spécial au moment de ce troisième maintenant. Alors, moi, je veux bien, pourquoi pas, mais enfin, je ne pense pas que c'est ce que Paul peut dire ou veut dire, ou dit. Parce que ça serait en contradiction avec toute son idée que c'est quiconque sera sauvé, quiconque croit en lui ne sera pas confondu. Il faut bien qu'il y ait une foi en Christ. Enfin là, c'est des questions de théologiens modernes. Vous voyez, c'est comme les gens qui vous disent, bon alors le bon bouddhiste ou le bon athée qui va être sauvé. Alors juste après être mort, il y a 45 secondes plus tard, en fait il rencontre Jésus et à ce moment-là il peut être sauvé. Moi je veux bien, pourquoi pas, hein? On s'en tire, comme ça Jésus sauve tout le monde. Tout le monde est sauvé en Jésus. Bon, enfin, ce n'est pas une question très pertinente. La question, c'est comment dans sa vie, le bon athée, le bon bouddhiste ou le bon musulman, il mène sa vie religieuse et puis il va être sauvé par Dieu qui se débrouillera comme un grand tout seul. Hein? On n'est pas obligé de supposer que 45 secondes après sa mort, une seconde avant sa mort, mais on ne s'en est pas rendu compte, Jésus-Christ lui est apparu. Bon. Ce n'est pas porter atteinte à la médiation du Christ auquel nous croyons dans l'histoire, et à la nécessité de la connaissance du Christ pour accéder au salut, que de faire des scénarios un peu compliqués par rapport à l'après-mort, la juste avant, etc. Bon, pour moi, c'est ma position. Il faut laisser à Dieu ce qui est à Dieu. Voilà, donc ce dernier maintenant, bon, j'en ai parlé. Voilà. Autant qu'on puisse voir, oui, c'est ce que je dis, il n'y a pas là de reconnaissance d'une troisième voie de salut pour Israël ou d'un chemin particulier. Peut-être Paul n'attendait-il pas la conversion de tout Israël par le jeu de la prédication normale, mais plutôt par un acte exceptionnel de révélation de Dieu, un peu comme lui avait bénéficié d'une telle révélation. C'est là où je m'aventure au plus loin. Peut-être que Paul voyait ça comme ça. Parce que c'est tellement lié à la fin des temps, ou à la résurrection des morts, qu'on peut admettre que y a des choses un peu exceptionnelles à ce moment-là. Mais sans mettre le Christ de côté. Une fois de plus, Paul ne se prononce ici absolument pas sur le salut de chaque individuel ou sur la façon dont Dieu juge chaque homme. Ce n'est pas le problème théologique qui traite ici, ce n'est pas contradictoire avec ce qu'il dit par ailleurs. Donc, Paul redit par ailleurs, très tranquillement, ce que dit la foi biblique, bon, Dieu jugera chaque homme selon ce qu'il a fait. Bon, une fois qu'on a dit ça, on a dit l'essentiel. Donc, que chacun se préoccupe de porter son propre fardeau, comme il dit aux Galates. Jésus avait bien lu Kierkegaard, c'est une manière de dire les choses, que chacun se préoccupe de son propre salut. Il parle en termes des grandes catégories bibliques en lesquelles se divise l'humanité. Le cardinal Lustiger insistait beaucoup là-dessus. Le Concile aussi dit ça un peu, ou Luc à la Pentecôte. Bon, voilà, le monde se divise en deux catégories, Israël et les nations. Et on ne parle pas du salut de « mais alors Joseph, fils de machin, que t'as tel endroit ». C'est un autre problème, ça. Donc jusqu'à la fin des temps, ça, je tiendrai cette proposition théologique aussi, jusqu'à la fin des temps, l'humanité se divise essentiellement en deux catégories, les juifs et les nations. Les juifs et les non-juifs. Il y a beaucoup de monde dans la catégorie des non-juifs, ce qui fait dire à certains théologiens juifs, il faut un peu quand même qu'on considère que Dieu peut s'intéresser plus que 1% du temps aux autres. Quand même. Et en toi seront bénies toutes les nations de la terre. Enfin, si l'élection n'a pas pour but le salut de l'humanité, effectivement, on a un problème avec l'élection, mais également avec la nôtre. Alors les Juifs ont un problème avec l'élection, mais enfin nous aussi, in fine. Dieu ne s'intéresse pas qu'à nous, ni qu'aux chrétiens, ni qu'aux baptisés, ni qu'aux croyants, ni ce que vous voulez. Donc, c'est donc bien en vue de tous. L'élection de quelques-uns est toujours en vue de tous. De même qu'Israël a été choisi pour la bénédiction des nations, de même l'Église a été choisie pour la bénédiction de l'humanité. Donc, il y a bien une énorme différence entre Thessaloniciens et Romains. Romains s'engagent à propos du destin eschatologique d'Israël, tout en continuant à prier pour les Juifs d'aujourd'hui. C'est ma prière pour eux. Une prière humble, une prière assez vague, c'est mes frères et je prie pour eux, pour que Dieu leur parle. Bon, alors, Évidemment, la prière du Vendredi Saint, là, après le Concile, la perfidie des Juifs, tout ça, on a dit, bon, on va changer un peu ce terme, même si c'était le latin et tout, c'était quand même extrêmement... on a quand même le droit de prier pour les Juifs. Évidemment, pendant 1700 ans, non seulement on n'a pas beaucoup prié pour eux, mais on leur a beaucoup tapé dessus. On comprend que la réaction de base des Juifs, c'est « foutez-nous la paix ». Ne vous intéressez plus à nous, hein, vivez votre vie et laissez-nous vivre en paix. On les comprend. Parce qu'à force de s'intéresser et de se polariser sur les Juifs comme ça, ça a donné quand même plein de désastres. C'est pour ça que la première croisade, vous savez, la première croisade, là où Saint Bernard est intervenu, première croisade qui a une importance énorme, qui a créé le judaïsme yiddish d'Europe de l'Est, parce que avant 1080, il y a quasiment pas de Juifs à l'Est de l'Oder-Neisse. Les communautés juives, elles sont à Cologne, Mayence, Spire, etc. Et c'est là que les premiers croisés arrivent, vous savez, la croisade des pauvres, des paysans, et il n'y a pas d'infidèles, on va aller combattre les infidèles en Orient. Ah ben on en a sous la main, ça tombe bien, donc on va commencer quand même par tuer les juifs qui sont là, ça nous fera la main, ça nous entraînera avant d'arriver en Terre Sainte. Et donc c'est un jour liturgique encore célébré au calendrier juif ashkénaze, hein, juif mondial d'ailleurs, je pense que les séfarades le font aussi, les martyrs du Rhin. Il y a eu des centaines et des centaines et des milliers de martyrs. Au point que Saint Bernard est intervenu, horrifié, comme beaucoup d'autres moines et d'évêques de l'époque. Il faut dire que plusieurs évêques allemands ont vigoureusement protesté. On notait que c'était une telle barbarie que, bon. C'est là où Saint Bernard a dit, vous savez, ne touchez pas aux Juifs, ils sont les yeux, ils sont la chair et les os du Messie. Bon. Décidément, les décollages d'aéroports sont compliqués. Le vibreur n'est pas mis sur discret. Hein. Voilà, c'est quand même ça, hein, dont on part. Donc, on peut prier, mais enfin, il faut le faire vraiment discrètement et en pesant ses mots. Ce qui frappe, voilà, c'est que Paul a eu une pratique tenant compte des deux attitudes. Même en colère, Paul continue à prier pour eux. Et au moment où il écrit un Thessalonicien, il réside à Corinthe, donc, chez Priscille et Aquilas. Et voilà, même quand il disait ne plus s'adresser aux Juifs, il continuait à leur parler. Voilà. Alors la colère est tombée sur eux, mais la grâce de l'Évangile reste toujours offerte. Donc pourquoi c'est intéressant d'un point de vue évangélique? Parce que ça nous dit que, à la fois la dernière conviction de Paul et le dernier mot de Dieu, puisque c'est un mystère, n'est pas un mot de condamnation, mais un mot de salut. Ne porte pas sur la colère, mais sur la grâce, non pas sur la mort, mais sur la vie. C'est quand même important. Tout Israël sera sauvé. Donc, si tant est qu'il faille déterminer lequel des deux textes a le plus d'autorité, il s'agit manifestement du second, qui conclut le corpus paulinien et témoigne de l'état le plus abouti de la théologie de Paul. En conclusion, Paul partage le langage des prophètes pour dénoncer ceux qui s'opposent au dessein de Dieu et à la proclamation de l'Évangile. Notamment, là où les notables juifs et leurs proches persécutent la communauté chrétienne. Entendu. Mais Paul ne s'arrête pas là. Et encore une fois, à la manière des prophètes, confère Isaïe 19, sa vision de foi va plus loin. Et il voit à quel point cette opposition peut être tournée en bien ou sera tournée en bien par le dessein de Dieu. Les propos sévères sur Israël sont motivés par l'amour d'Israël. Ça, c'est totalement prophétique. Et la conviction de foi que Dieu ne peut pas rejeter, in fine, son peuple. Dieu a enfermé tous les hommes, toute l'humanité, dans la désobéissance. Bon, parce que quand même, en élisant Israël pendant un certain nombre d'années, Dieu a fait de tous les autres hommes des païens pécheurs. Bon, ben, ça s'est arrêté un moment. En tout cas, il y a la possibilité pour chaque païen de devenir un croyant. Le dernier mot de Dieu est pour Paul miséricorde, c'est son dernier mot dans Romains 9:11, en Romains 11:32, avec le dernier Amen de 11:36. Ô abîme de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses décrets sont insondables et ses chemins incompréhensibles. Qui a en effet connu la pensée du Seigneur, qui en fut le conseiller, ou bien qui l'a prévenu de ses dons pour devoir être payé de retour, car tout est de lui et par lui et pour lui, à lui la gloire éternellement. Amen. Notez ce truc génial à la fin. Dans cette doxologie, dans cette péroratio, qu'au moment même où Paul vient de nous dire « Dieu m'a tout expliqué, j'ai tout compris, je vais vous dire le mystère. » Il dit « mystère de l'incompréhensibilité. » Je ne dis pas même encore que j'ai tout compris. Voilà ce que je crois avoir compris de la révélation du mystère, mais les chemins du Seigneur, nous, c'est de la théologie apophatique, si vous voulez, c'est de la théologie de l'ignorance. Au moment même où je crois comprendre quelque chose, et où je comprends quelque chose, j'admets dans le même mouvement, eh bien, que cela me dépasse. Donc, même Paul reste humble par rapport à une telle révélation du mystère. Voilà, donc, nous verrons à partir de la fois prochaine le mystère de Romains et le mystère de la mort de Paul et le lien entre